Il y a une question qu'on peut se poser lorsqu'on nous dit de ne pas résister aux méchants, c'est de se demander, mais est-ce que la motivation pour ne pas résister aux méchants, c'est pas une fausse excuse pour cacher sa lâcheté? Vous savez, parfois, lorsqu'on est face à la brute, on se dit, finalement, plutôt que de me faire casser la figure jusqu'au bout, je vais faire ce qu'il dit, comme ça, au moins, je finis pas à l'hôpital. On pourrait se demander, est-ce que ne pas résister aux méchants, c'est simplement la volonté de s'en tirer à bon compte, en fait, par lâcheté? Alors, quand on voit ce qui arrive au Christ, qui va être crucifié, on peut dire vraisemblablement il n'a pas cherché simplement à sauver sa santé, parce que sinon il aurait trouvé un autre moyen. Donc ce n'est pas l'objectif. Pour comprendre ce que Jésus nous dit, il faut le replacer dans ce qu'il est en train d'accomplir et dans ce qu'il est en train d'enseigner à travers ce discours sur la montagne. Vous savez, c'est un long discours, les chapitres 5, 6, 7 de saint Matthieu. Jésus, en fait, on pourrait mettre cela sous un chapeau, sous un titre. Jésus est venu rendre la justice. Jésus est venu rendre la justice. Peut-être Jésus est venu rendre la justice. Et on va réfléchir autour de cette expression. Parce que la façon première dont on comprend ça, rendre la justice, c'est donner à chacun son dû. La première façon dont on le comprend et qui est une façon normale, donner à chacun son dû, c'est j'ai travaillé et on me promettait un salaire pour ce travail, je reçois le salaire, c'est la justice. Si quelqu'un vient me prendre mon goûter à la récréation, alors que je n'avais pas prévu que je me fasse voler mon goûter, c'est injuste. On doit rétablir la justice. Et vous souvenez que la semaine dernière, Jésus insistait sur ceci en disant « Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » C'est-à-dire qu'il réaffirmait, on fait bien la distinction entre le méchant et le bon, entre le juste et l'injuste. On n'est pas en train de dire « Oh, tout se vaut, finalement rien n'est grave, faites comme vous voulez. » Non, on a bien dit cette distinction « rendre justice ». Il y a bien une différence entre ce qui est juste, rendre à chacun selon son dû. Tu as semé le droit, tu seras récompensé. Tu as semé le désordre, l'injustice, l'iniquité, eh bien tu en porteras les conséquences. On redonnera à chacun selon son dû. Et on le comprend instinctivement, quand quelqu'un vient vous prendre vos affaires, on n'est pas heureux. Quand quelqu'un nous parle mal, on en est blessé. Il y a une aspiration qui est vraiment marquée au plus profond d'entre nous. Donc ça, c'était la semaine dernière. Jésus vient rendre la justice, vient donner à chacun selon son dû. Mais rendre la justice porte aussi un autre sens. Rendre la justice, c'est aussi rendre la justice à celui qui l'a perdue. Alors là, je me tourne vers les servantes de l'Assemblée. Rendre la justice, c'est aussi rendre la justice à celui qui l'a perdu. Comment ça? Je veux dire, la justice, on peut la perdre comme on perd son trousseau de clés? Non, évidemment, c'est pas comme ça, mais vous voyez bien que quand quelqu'un devient méchant, au départ, on pouvait dire qu'il devait être juste, par sa méchanceté, il a perdu sa justice. Il y avait quelqu'un, il s'est mis à mentir, il a perdu sa vérité, il a perdu de sa justice. Quand on dit que Jésus vient rendre la justice, c'est aussi Jésus vient apporter la capacité que celui qui est devenu méchant, celui qui est devenu injuste, puisse revenir, être rétabli dans la justice. Donc la première chose, ça veut dire qu'on constate qu'il est injuste, que ce qu'il a fait n'était pas droit, que ce qu'il a fait n'était pas bien. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », vous entendez cette phrase qui arrache un peu nos oreilles, ça veut dire que des ennemis, on peut en avoir. Des gens qui nous veulent du mal, des gens qui ne nous aiment pas. C'est une chose qu'on peut constater effectivement. Mais voilà que Jésus dit « ces gens-là qui nous veulent du mal, ces gens qui sont ennemis, ces gens qui sont injustes envers nous, eh bien je veux offrir une chance pour rétablir aussi leur justice, que d'injustes ils deviennent justes, que de méchants ils deviennent bons. » Vous voyez l'objectif, il va très loin. C'est pas simplement du coup rendre sont dus à chacun, mais c'est aussi proposer, offrir une transformation du cœur de ceux qui ont abandonné les chemins de la justice. Et c'est de ça dont il est en train de parler. Donc, premier constat, des ennemis, on peut en avoir. Mais deuxième chose, on va se souvenir également que, avec qui faut-il faire la paix ? Avec ses ennemis. D'une certaine manière, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis, hein. Avec les autres, c'est pas la peine. On n'est pas en guerre avec les autres. Avec mes amis, je suis pas en guerre. C'est avec mes ennemis que je suis en guerre. Et on pourrait dire, mais j'ai pas envie, justement, je vais faire la paix avec le type qui veut me taper dessus. C'est dangereux. Et de fait, c'est dangereux, mais pour avancer, justement, il va falloir imaginer, il va falloir avoir une espérance que celui qui aujourd'hui est mon ennemi puisse devenir un compagnon, quelqu'un avec qui je peux collaborer, quelqu'un avec qui je peux vivre en paix. Ça n'existe pas encore, mais je l'imagine et je l'espère, parce qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Mais pour faire la paix avec ses ennemis, il faut bien qu'on ait un contact, une relation avec lui. Et si vous avez fait attention aux exemples que Jésus prenait, ce sont des exemples qui maintiennent le contact. Quand il dit « si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre », il dit pas ça « vous avez pris un coup, vous avez aimé ça, hein, c'était sympa ». Non, ça s'appelle du masochisme, c'est une maladie mentale. J'ai pris un coup, et qu'est-ce que je peux faire ? Je peux avoir envie de sortir mon arme et d'abattre l'autre, ou de m'enfuir et de plus jamais le voir. Mais si je veux donner un avenir, il faut bien que je reste là. C'est ça l'idée de tendre l'autre, c'est pas par amour de la douleur. Ou lorsqu'il dit, il veut te prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Vous savez qu'en Israël, on n'a pas le droit de garder le manteau de la personne quand le soir arrive, pour pas qu'un pauvre puisse se retrouver sans de quoi se couvrir pendant la froidure de la nuit. Donc ça veut dire que si je lui donne mon manteau, que je vais encore le revoir parce qu'il doit me le rendre, le manteau. Il me réquisitionne pour faire 1000 pas, je vais en faire 2000 avec lui. Il y a un contact qui est prolongé. Pourquoi ce contact est-il prolongé, justement ? Pour œuvrer à la transformation du cœur. Là est l'objectif, oui, de permettre que quelque chose qui n'existe pas maintenant puisse exister. Et l'on voit que ces éléments-là, on peut dire, mais c'est un rêve, ça ne peut pas exister. On en a pourtant des traces dans notre histoire. Et dans notre histoire, il y a un exemple, j'allais dire un peu évident, mais qu'il est bon de revenir, ce qu'on a appelé la réconciliation franco-allemande. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on n'appelait pas les Allemands les Allemands, on appelait les Allemands les Schleux ou les Boches. Pourquoi ? Parce que c'était l'envahisseur, c'est celui qui a détruit le pays, celui qui les a fait partir de la Moselle qu'en 1871, quand elle a été annexée au Premier Reich. C'était pas les Allemands, c'était les Schleux, c'était les Boches, c'était l'ennemi. Et nous voyons que maintenant, pourtant, après trois guerres importantes, 70, 14, 18, la Deuxième Guerre mondiale, cette animosité entre le peuple français et le peuple allemand a été dépassée. L'histoire est toujours présente dans les esprits, mais l'animosité a été dépassée. Et ce sont notamment des chrétiens qui ont œuvré justement à cette réconciliation. Il a fallu faire la paix avec des ennemis. Mais du coup, il y a un constat aussi qu'on fait, c'est-à-dire que il y a des fois, vis-à-vis de mon ennemi, mais je ne peux pas avancer, j'arrive pas à avancer, j'en suis paralysé. Et il y aurait une erreur à se dire, c'est juste une histoire de volonté là, prenez-vous en main, respirez un grand coup et ça va être possible, ça va être facile. Non, il y a des fois on est bloqué, on ne peut pas avancer. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus nous le demande ? Eh bien Jésus ne nous dit pas, faites-le tout seul et puis revenez me voir. Jésus, justement, annonce, ici vous avez entendu, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel, d'extraordinaire, on pourrait dire de surnaturel. Pourquoi ? Pour que vous soyez les fils de votre Père dans les cieux. Mais ce n'est pas naturel d'être les fils de Dieu. Nous, nous sommes de nature humaine, nous sommes de nature créée, Dieu est de nature divine. Donc c'est un acte qui dépend de la nature divine qui nous est demandé. Il faut bien le comprendre, parce que si nous regardons nos seules forces, ce n'est pas possible, et c'est légitimement impossible. Mais ce que Jésus dit justement, c'est « Je suis venu unir ma vie divine avec votre vie humaine. Je suis venu donner un avenir surnaturel. » Au niveau des forces naturelles, c'était bouché, il n'y en avait pas. Je suis venu vous donner un avenir surnaturel pour que vous deveniez les fils de votre Père, Dieu de nature divine, qui est dans les cieux. Je vous appelle à vivre de façon surnaturelle. Par moi, avec moi et en moi, ce chemin vous sera ouvert. Rappelez-vous ce qui était dit dans les Béatitudes, « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Et dans ce passage que nous entendons, c'est bien cela, « Vous serez les fils de votre Père, les artisans de paix. » Et donc ceux qui prennent le risque d'une réconciliation avec celui qui est à ce jour encore un ennemi. Le risque est grand. On le voit, le Christ est crucifié. Il y a des ennemis qui continueront à crier « À mort, crucifie-le ». Ils recevront leur dû lorsque le Christ viendra dans la gloire. Mais il y a ceux aussi qui peuvent se convertir. Rappelez-vous ce centurion au pied de la croix qui voit Jésus expirer. Il n'a rien fait jusque-là. Il l'a regardé être crucifié. Et quand Jésus expire sur la croix, cet homme s'exclame vraiment, « Celui-ci était fils de Dieu. » Quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été transformé. Il y a un avenir qui a été ouvert. Eh bien, c'est cet avenir-là que le Christ veut nous offrir. Peut-être qu'en cette Eucharistie, nous avons à demander d'abord à prendre conscience de la grâce que le Christ nous a faite. Il a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore ennemis de Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul. Nous étions encore ennemis de Dieu. Au moment où on nous regarde, on se dit « mais ça vaut pas le coup ». Mais c'est à la fin de l'histoire. Quand on voit saint Pierre, on se dit que Jésus a bien fait de faire la paix avec Pierre le renégat. Quand on voit saint Paul, on se dit que Jésus avait bien fait de faire la paix avec Paul le persécuteur. Mais cela passe par la rencontre de la croix. Il faut se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous pour oser dire « Seigneur, si tu me donnes ta grâce surnaturelle, je crois qu'un chemin est possible. Je crois qu'avec toi, je peux être artisan de paix. Sans toi, c'est impossible. Je n'en ai pas la force. Je n'en aurai même pas le goût. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Alors, Seigneur, donne-moi cette conscience de ton amour qui m'a aimé lorsque je n'étais pas aimable. Et donne-moi ta grâce pour avoir l'audace d'être à mon tour artisan de paix. Donne-moi aussi la joie de voir quelques fruits de conversion. Le Seigneur est venu rendre la justice, donner à chacun selon son dû, mais aussi offrir de rendre la justice à ceux qui en avaient abandonné le chemin. Amen.